Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le bunker, consacré aux films de guerre, ou en tout cas consacré aux films qui mettent en scène des militaires, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Vincent Touret, doctorant à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, chercheur aussi associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je rappelle, vous êtes apparu plusieurs fois dans le podcast, d'abord pour parler de la pensée stratégique russe, puis ensuite vous étiez revenu avec Philippe Gros pour parler, disons, de l'état des forces russes et ukrainiennes. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
Bonjour, merci beaucoup.
Et pour parler d'un film tout à fait étrange et intrigant, qui est donc ce The Beast, Bête de guerre, en français. Film de 1988, film américain, réalisé par Kevin Reynolds, qui est un film que je ne connaissais pas, je dois dire. Et c'est vous qui m'en avez parlé il y a plusieurs mois maintenant, parce que c'était avant que vous partiez au Canada. Vous m'avez dit, regarde, c'est intéressant. J'ai regardé, c'est tout à fait un classable très très bizarre. Je vais faire le pitch très rapidement. C'est un équipage de chars soviétiques, de T-55 d'ailleurs. C'est très intéressant de voir un T-55 de l'intérieur, comme on a pu en croiser quelques-uns en Ukraine, pas trop proche du front, mais on en a vu quelques-uns, qui est perdu en Afghanistan, pendant l'invasion soviétique de l'Afghanistan évidemment, et qui doit faire face à un petit groupe de moudjahidines qui le traque au fond des vallées, parce que évidemment les soviétiques ont ruiné un village afghan, et qui donc le traque jusqu'à réussir finalement à essayer de le détruire. Je spoile pas la fin, mais enfin bon, on peut s'en douter dès le début. Alors c'est un film donc que je connaissais pas du tout, et puis j'ai appris après que en fait c'était devenu une sorte de film culte. Parce qu'il faut reconnaître que c'est très bizarre, il y a un côté fermé, claustration, qui est pas sans rappeler le Fury de David Ayer, qui est un excellent film par ailleurs. Et il y a une ironie quand même, enfin c'est un film très marrant à regarder aujourd'hui, parce que c'est quand même une sorte de film fan hollywoodien des Moudjahidines afghans, ce qui est, bon alors pour 1988 c'est pas totalement absurde, mais si on se replace, disons 15 ou 20 ans plus tard, il y a évidemment une certaine ironie à voir un film américain faire à ce point-là l'éloge des courageux combattants afghans qui combattent une invasion étrangère sur leur sol, qui veut les changer dans leurs coutumes et dans leur manière de vivre. Bon, c'est légère ironie de voir Hollywood de faire l'éloge de tout ça, mais bon, peut-être dites-nous, Vincent Touret, pourquoi est-ce que vous m'avez mis sur cette piste et sur ce film particulièrement bizarre et inclassable et en même temps très jouissif, et qu'est-ce qui vous intéresse donc dans cette bête de guerre?
Je pense que ça résume assez bien le côté, on va dire, un peu geek, jouissif du matériel. C'est vraiment un film qui est tourné dans le T-55, autour du T-55, c'est des vraies machines. Hein. C'est, ils les ont achetées. On y reviendra plus tard, hein, mais auprès des Israéliens. Donc on a vraiment le dévoilement de la bête, hein, de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis le côté, la perspective un peu inclassable, un peu marginale, hein, à Hollywood et ailleurs, de une histoire soviétique en Afghanistan. Il y a quand même très très peu de films qui le font. D'ailleurs, le seul autre projet que je connaisse d'un film américain qui essaye de présenter une perspective soviétique de cette intervention, c'est un documentaire. Hein, c'est l'expérience soviétique, sorti en 89, qui est là aussi beaucoup plus. Là, le propos est beaucoup plus réaliste. Hein, c'est un documentaire, mais du coup, il y a très peu de films. Donc, il y a un côté de niche. Il y a un côté un peu geek passionné, Et au-delà, après, je dirais que le film m'a quand même surpris, et il m'a resurpris quand je l'ai revisionné, là, parce que c'est un peu... c'est vrai, c'est aussi un excellent nanar, c'est un trip sous acide quand même, où on a à la fois ce personnage de capitaine soviétique qui aurait qu'incarne en fait la mythologie russe, hein, combattant de Stalingrad à 8 ans, aujourd'hui en train de d'étendre du coup la révolution à d'autres pays. Il y a des séquences qui rappellent aussi Alien, hein, c'est le moment où le char et place des capteurs de mouvement autour et pour essayer de voir la prochaine nuit. Enfin, il y a beaucoup trop de choses dans ce film. L'attention au paysage, le côté mythique du char, les clichés effectivement sur les Afghans, une sorte de bon sauvage armé. Voilà.
Mais alors justement, ça pose la question même des contours de l'intervention soviétique en Afghanistan, puisque là, ce qu'on voit, c'est vraiment un char qui est employé comme une bête de guerre littéralement invulnérable. Avec, ça commence par un raid de chars sur un pauvre village afghan. On se demande pourquoi il y a besoin de 4 ou 5 chars pour capturer ces quelques maisons. Et ensuite, on est vraiment dans un combat, disons, de type insurrectionnel avec ces quelques insurgés qui essayent de mettre à mal un char. Alors est-ce que... Je sais pas, en voyant ça, je me suis dit que c'était un peu étrange comme utilisation du char dans ce genre de situation. Est-ce que ça correspond à quelque chose, disons, des contours de l'intervention soviétique en Afghanistan?
Moi, je pense que il faut comprendre le propos du film, en fait, comme une sorte de caricature. Ce que l'auteur, en fait, voulait exprimer, c'est d'ailleurs assez hallucinant, c'est qu'il voulait montrer l'inadéquation. La terreur et en même temps l'impuissance de la technologie vis-à-vis de la technologie et des chars, des moyens blindés, l'écart en fait complet entre ces moyens lourds et la résistance afghane beaucoup plus démunie et jusqu'au cliché d'une force irrégulière quasiment moyenâgeuse. L'emploi des chars en Afghanistan par l'Union soviétique, ils sont d'abord utilisés pour de la protection de convois, la protection des bases, la destruction des fortifications ou des infrastructures des villages et urbaines, mais il a pas grand-chose à voir avec ce que le film montre. Hein. Le film, en fait, il fait tout pour, justement, faire du T-55 une bête mythique. Quand la scène d'ouverture correspond pas vraiment à la doctrine, enfin elle correspond pas du tout, hein, disons-le très net, avec la doctrine russe de l'époque. On a une compagnie qui agit contre un village sans soutien d'infanterie, qui fait de la représailles à grand renfort de gâchis de munitions, on va dire. Enfin c'est vraiment c'est un grand moment gore, hein, c'est vraiment l'explosion hollywoodienne dans toute sa puissance.
Faut dire qu'ils détruisent globalement un village en terre sèche avec un canon de 205 mm. Bon, il y a probablement d'autres manières de prendre un village comme ça et de faire éventuellement moins de dégâts, éventuellement de mener une lutte contre-insurrectionnelle un peu plus efficace, quoi.
Mais il y a même un acharnement, hein, parce que au-delà même de la destruction physique, hein, du village et du massacre de ses habitants, les Russes ensuite empoisonnent les puits, utilise l'un des chefs du village comme un martyr qu'ils vont écraser sous les roues du véhicule. On est presque sur comment on appelle ça, vous savez, c'est pas les cringe movies, c'est les les snuff movies. Je veux dire, il y a un moment comme ça assez viscéral, hein, quand même, et c'est complètement incohérent et irréaliste si on est dans l'idée que le film va nous représenter la guerre d'Afghanistan du point de vue soviétique. C'est totalement par contre cohérent dans l'idée de l'auteur de montrer en fait cette barbarie russe qui va venir justement subjuguer en fait les pauvres locaux.
On peut dire il y a un côté incroyablement orientalisant à ce film, c'est-à-dire c'est ces Afghans qui sont complètement pris dans leur temps immémorial, qui font la guerre à peu près comme ils la faisaient il y a probablement 500 ans avec quelques fusils en plus, avec des femmes qui ont un rôle d'ailleurs une vision de la femme afghane très très compliquée là-dedans, puisque sont vraiment elles sont un peu représentées comme des furies. Donc il y a un côté, c'est vraiment le fantasme américain de l'Afghan à cette époque-là qui d'ailleurs la métaphore de David et Goliath est largement réemployée, c'est vraiment ce David qui est fort de son cœur pur et de sa foi, qui va écraser la bête matérialiste soviétique, quoi.
Bah, l'auteur, enfin c'est même carrément colonial, hein, parce que l'auteur, enfin le film se conclut quand même sur une citation de Kipling. Donc en fait, ça renvoie même à une sorte de fatalité et vacuité des grands empires avec leur mission civilisatrice par rapport finalement, effectivement, à une sorte de société qui serait pure, honorable, extrêmement sophistiquée en fait dans sa gestion justement de la violence. Par rapport à des sociétés industrielles qui, elles, fort de leur technique, ont en fait complètement perdu toute limitation, toute orientation morale, justement, dans cet emploi-là. C'est, quand je dis ça, il y a tout un des points centrales du film, c'est de montrer que le modèle soviétique est sans questionnement ni doute sur la valeur de son adversaire, qu'il bestialise et détruit complètement, enfin, qu'il cherche du moins à détruire complètement, par rapport à des groupes afghans qui... eux ont un système, ont des coutumes, notamment d'hospitalité, et j'ai oublié le terme, mais c'est donc les règles tribales de d'aide, d'assistance à autrui, qui font que même...
C'est ça le nanawate.
Exactement. Où, en fait, même le soviétique acculé peut faire la demande du nanawate et du coup recevoir protection et assistance de la part de ses anciens adversaires.
Et donc, parce que précisons que un ressort central du film, c'est donc ce capitaine de char soviétique qui est là depuis, enfin qui combat depuis Stalingrad, nous raconte-t-on, qui devient progressivement complètement fou. Il y a un côté d'ailleurs un peu au cœur des ténèbres ou Apocalypse Now, c'est-à-dire ce type qui devient complètement, qui sent sauvage, qui au contact de la guerre, et progressivement il se met à prendre tous ses hommes en grippe successivement. Alors d'abord c'est le personnel afghan, enfin le soldat afghan qui est inséré dans le char comme traducteur, qui finira d'ailleurs par tuer. Ensuite c'est progressivement le pilote du char, qui est un peu le héros du film, qui va essayer de tuer, d'abandonner pour qu'il meure, et finalement ce pilote de char va être récupéré par les Afghans, va être recueilli par les Afghans, et ensemble ils vont vaincre la bête soviétique.
En fait, le scénario, honnêtement, c'est presque un proto Mad Max, hein. Littéralement le film, c'est le char entre dans un défilé montagneux, arrive en fait à un cul-de-sac, et malgré une alternative promise, une aide promise, il décide en fait de refaire le chemin inverse, fidèle à ses valeurs et à ses principes, pour porter le fer en fait contre l'adversaire du début. Bon, malheureusement, il échoue in extremis à la sortie du défilé. Mais ouais, il y a ça. Je dirais qu'en plus d'Apocalypse Now et ce côté vraiment pourrissement de l'intérieur d'un équipage, hein, la descente dans la folie, je trouve qu'il y a pas mal la patte en fait. Le réalisateur, c'est Kevin Reynolds. C'est quelqu'un qui va faire Waterworld après, un autre excellent film, hein, n'est-ce pas? Et qui en fait est pas mal lié au film de Kevin Costner. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a pas mal déjà. C'est plein de stéréotypes et de préjugés, mais ça se rapproche presque d'un Danse avec les loups, en fait, avec cette attention portée au paysage, à la transformation des individus vis-à-vis de la beauté de la nature, les moments de recueillement, les moments d'adaptation aussi, hein. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a la population locale adaptée à son environnement, consciente de ses limites par rapport à un étranger, à un intrus armé de fer et d'acier, qui en fait ne prend pas du tout en compte les difficultés du paysage qui et du coup de la société qui l'entoure.
On peut dire, de ce point de vue-là, il y a un point qui est tout à fait intéressant, c'est le personnage que j'ai déjà mentionné de l'interprète afghan, qui a un rôle intéressant. C'est quelqu'un qui est donc un afghan, fondamentalement, mais qui a décidé de se former en URSS, parce que il pense que c'est la manière de faire sortir son pays de cet âge reculé. Enfin, en tout cas, il a envie d'être un personnage qui, j'imagine, a un destin politique ou militaire, mais en tout cas, qui mène l'Afghanistan vers la modernité. Et ce que ce film représente en quelque sorte, c'est cette impasse, puisque la modernité, en tout cas représentée par le char soviétique, en fait le rejette, ne veut pas, ne s'intéresse pas à ce personnage-là et à ses aspirations. Et donc, ça, en quelque sorte, ça dessine un clivage irréductible entre, disons, le monde moderne, industriel, en l'occurrence soviétique, et ces sociétés prises dans leur temps immémorial.
Ouais, en fait, moi, ce que j'ai compris à travers la figure de l'interprète, c'est même carrément le destin, en fait, du régime communiste afghan, hein, qui a été complètement trahi par l'intervention soviétique, en fait. Puisque, en fait, quand les soviétiques interviennent en 1979, ils se présentent comme une sorte, enfin, ils arrivent en soutien au gouvernement communiste qui est en place, pour en fait mieux le toper, en fait, et le remplacer par une figure beaucoup plus servile, en fait, à leurs intérêts. Et donc, en fait, il y a ce côté, effectivement, cette impasse du communisme à l'afghane, qui est non approprié à son pays, et qui, en plus, est complètement abandonné, trahi par les représentants, en fait, de l'idéologie à laquelle il s'était donné.
On peut peut-être maintenant basculer sur le côté un peu geek que vous mentionniez en introduction, parce que effectivement, on l'a dit, c'est un T-55 qu'on voit à l'écran, et c'est pas inintéressant parce que il y a une histoire derrière ça. C'est-à-dire, c'est un vrai T-55 que la production a acheté à Israël, puisque c'est des chars qui ont été capturés face aux armées arabes, alors j'imagine en 67 ou en 73, je sais pas exactement, et qui ensuite vont être utilisés par Israël avant donc de faire différentes choses, mais là en l'occurrence d'être revendu pour faire le film. Voilà, qu'est-ce que ça fait de voir un T-55 de l'intérieur pour quelqu'un qui travaille quand même sur l'armée russe depuis un certain temps, Vincent Touret?
Ah bah c'est génial, parce qu'en plus c'est fait à l'hollywoodienne, hein, donc pour moi c'est un peu le Fury, mais pour le char soviétique, quoi. Donc il y a le scénar, l'agitation de l'équipage, ses relations. Il y a juste, il y a quand même des points qui sont différents, qui m'empêchent aujourd'hui de complètement, disons que c'est pas l'expérience pure et parfaite d'un équipage soviétique, parce que déjà ils sont 5, hein, dans le char, ce qui change beaucoup de choses. Normalement, un T-55, ils sont 4. Et donc, on se demande en fait quelque part où se place l'interprète afghan dans l'équipage. Est-ce qu'ils ont deux loaders? Chargeur de munitions.
Vous avez déjà vu un T-55 de l'intérieur?
Non, j'ai jamais pu faire ça. Non, uniquement de l'extérieur. C'est en tout cas par rapport aux images que j'ai pu voir des intérieurs de chars, c'est une très bonne description. Le démarrage du char aussi est bien respecté. C'est-à-dire que les procédures sont assez bien respectées sur comment relancer la machine. Les problèmes de batterie aussi sont exposés. Ils ont quand même. C'est un film qui son propos politique et symbolique est complètement caricatural, mais il a une attention aux détails techniques quand même assez impressionnante. Ces deux chars, pour revenir sur leur histoire, sont effectivement des chars récupérés par l'armée israélienne. C'est bien un char T-55, même si le canon, en fait, lui, est remplacé. On voit la différence, notamment au fait que comment on appelle ça, la bouche, l'évacuateur de fumée du canon est placé au milieu. Le T-55 de base n'en a pas. Mais par contre, le film innove, par exemple, sur les effets du canon. En fait, avant The Beast, il n'y a pas de canon dans les films américains qui ont notamment un effet de recul. C'est vraiment The Beast qui va innover là-dessus, où ils vont faire en sorte, en fait, de faire des munitions vraiment remplies d'eau pour créer un effet de percussion, en fait, beaucoup plus fort pour que le canon recule. Enfin, il y a plein d'attentions comme ça qui sont ultra bien pensées, et qui font que, ouais, pour le coup, c'est assez chouette.
On peut dire aussi, c'est intéressant parce que c'est une représentation du fonctionnement de l'équipage d'un char qui est à la fois probablement très caricaturale et en même temps qui est assez conforme à l'idée qu'on s'en fait, c'est-à-dire Il y a quasiment, donc il y a le chef du char qui est tout puissant. Il y a aussi une sorte de commissaire politique qui est là pour noter tout ce qui se passe, pour faire un rapport ultérieurement. Il y a en l'occurrence un membre de l'équipage qui est complètement alcoolique et qui, au point qu'il se met à boire le liquide de frein du char, ce qui en menace le fonctionnement. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé, disons, de la représentation qui est faite de voilà, ce que sont les militaires soviétiques à cette époque-là et dans cet endroit particulier qu'est la campagne d'Afghanistan.
Alors, moi, j'ai pas réussi à trouver les efforts de documentation qui ont été faits pour ce film, et je doute en fait qu'ils en aient fait beaucoup pour comprendre qu'est-ce que l'armée russe, comment s'insère, comment sont formés les équipages de chars, quels sont les problèmes de cette armée. Mais en fait, presque par miracle, le film, effectivement, je trouve, touche des points qui sont cruciaux pour comprendre les problèmes de l'armée russe de cette époque. Y a un gros problème, par exemple, là, on l'a mentionné pour l'alcoolisme, mais on va dire de façon plus générale sur le bien-être des équipages et du personnel en Afghanistan. L'armée russe en Afghanistan, c'est 15 000 pertes à cause des attaques de Moudjahidine. Mais c'est quasiment, que je me trompe pas, mais c'est plusieurs dizaines de milliers, surtout de pertes en fait sanitaires, parce que il y a pas assez, la logistique est mauvaise, parce que l'eau déjà a beaucoup de cas de dysenterie, c'est un des thèmes aussi du film, hein, beaucoup d'empoisonnement à l'eau. Les Russes sont absolument malades de l'Afghanistan, littéralement. Et après, il y a plein de petites notes. Alors, je ne sais pas encore une fois si ça a été fait exprès, mais effectivement, il y a aussi le rapport entre les tankistes vis-à-vis du soutien aérien. Il y a un moment, il y a un équipage d'hélicoptères soviétiques qui vient les aider, et ils décident, envers et contre tout, de ne pas être exfiltrés, mais plutôt de rester avec leur véhicule et de le ramener à bon port. Et là-dessus, en fait, c'est super intéressant, parce que il y a une sorte de fierté. Là, ils ont réussi à cristalliser la fierté russe autour du char, ce que revêt le char à l'époque pour l'armée russe et encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le char est l'arme principale du combat. Et donc, c'est impossible de laisser un tel trophée tomber aux mains de l'ennemi. Après, par contre, je dirais que ça revient sur les sujets qu'on a traités auparavant. Probablement qu'un T-55 à l'époque, à ce point endommagé, aurait été sûrement cannibalisé ou abandonné sur le champ de bataille. Mais le film touche, malgré ses stéréotypes, à plein de lignes de fracture et de tension dans l'armée russe, sa brutalisation des hommes également, la question du contrôle politique. Il y a même, en fait, même culturellement, il y a un tout petit passage à un moment où ils utilisent une radio soviétique, une vraie radio de l'époque, j'ai plus le modèle, mais ils passent en fait du Kino, qui est un groupe de rock des années 80-90, hein, qui est sûrement le seul connu en Occident. Sa musique, d'ailleurs, c'est Trolleybus, hein, celle qui passe.
I need a woman!
Maybe you'll find another sheep.
Maybe I will.
Kaminsky, turn that music off.
Dolokhov put it on, sir.
Et c'est un film qui date de 1987, 88. Donc en fait, ils ont utilisé une musique qui, en fait, c'est sa date de sortie. Et donc ils arrivent en fait étrangement à rejoindre à donner une image de la mentalité soviétique de l'époque et de ses relations. De commandement et d'hiérarchie et hiérarchique qui est plutôt pas mauvaise. Et vraiment, moi, j'encourage d'ailleurs à regarder ce film pour le côté nanar, on va dire pour une vision très caricaturale, mais on va dire très condensée de ce qu'a pu être la guerre soviétique en Afghanistan, dans ses aspects mythologiques, etc. Avec le documentaire dont je vous ai parlé, où c'est un Américain qui a été incorporé dans les troupes soviétiques et qui a tourné un documentaire comme ça qui dure au moins 1 heure à 2 heures. Dans les montagnes d'Afghanistan. Et le documentaire sera prêt après le film. Mais pourtant, on retrouve déjà ces équipages qui sont très jeunes, où il y a énormément d'influences déjà occidentales, l'influence du rock, Et toute la difficulté effectivement des routes, de la gestion de la population, etc. Et donc c'est plutôt, ouais, c'est un film surprenamment, c'est un nanar surprenamment précis.
Ouais. Bon, alors donc un film qu'on recommande vivement, ne serait-ce que si vous êtes curieux de voir à quoi ça peut ressembler un char soviétique de l'intérieur, à quoi ça peut ressembler le canon, les capteurs, comment les gens sont disposés les uns par rapport aux autres, comment ça tire, l'interaction entre les différentes armes, entre la mitrailleuse, il y a un lance-flamme aussi, il y a le canon, la manière vraiment dont c'est même fait, oui.
Ouais, sur le lance-flamme, par contre, ça, c'est vraiment une liberté, hein, une énième liberté du film, hein, par rapport à la réalité. Il y a une version lance-flamme du T-55, mais elle a pas du tout été employée en Afghanistan, et elle a même pas été mise en production. Ça, c'est vraiment un rajout, c'est un effet stylistique.
Bon, mais en tout cas, on voit, par exemple, les écrans, les dispositifs de visée. On voit la manière dont les ordres sont donnés et sont transmis à l'intérieur d'un char. Et donc, pour tous ceux qui sont un peu curieux de cette espèce de ne serait-ce que comment ça marche, c'est un char d'époque soviétique, puisque évidemment, c'est pas totalement déconnecté de la réalité actuelle, puisque des chars comme ça, un peu plus récents, mais aussi ceux-là, on en a vu quelques-uns en Ukraine. Vraiment, on peut vivement recommander, vraiment pas à prendre au premier degré, mais c'est tout à fait intéressant de voir donc ce The Beast de Kevin Reynolds. Qui date de 1988. Merci beaucoup, Vincent Touret.
Merci à vous.
Je peux rappeler que donc on peut voir ce que vous produisez, ce que vous avez produit, ce que vous produisez encore, notamment en vous suivant sur Twitter, je pense.
Ouais, tout à fait.
Merci beaucoup.